Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum du Studio Kalangou, l'émission quotidienne qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Chaque année, des millions de personnes quittent leur domicile dans la campagne et migrent vers les centres urbains, à la fois à l'intérieur de leur propre pays, mais aussi et surtout à travers les frontières. Si certains se trouvent contraints de migrer pour fuir en raison de conflits ou de catastrophes à évolution rapide ou lente, d'autres migrent simplement pour trouver de nouvelles opportunités et améliorer leur vie. Le forum d'aujourd'hui porte sur la migration des jeunes de Tawa ou l'exode des jeunes de Tawa vers la Libye, causes et conséquences. Quels sont les principaux facteurs de cette migration des jeunes vers les pays du Maghreb? Quels sont les dangers que ces jeunes encourent dans leur aventure? Quelles sont les conséquences immédiates ou à moyen terme qu'engendrent ces départs? Quelles sont les alternatives qui sont offertes ou qui peuvent être offertes à ces jeunes aventuriers? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité Boubena Ansi, qui est membre de l'association Adelki, une organisation de la société civile ici à Ottawa. Et nous sommes également en compagnie de Aliou Amadou, qui est directeur régional de la jeunesse et des sports. Nous sommes aussi en compagnie de Abdourachid Zakou, qui est président régional du Conseil des jeunes ici à Ottawa. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Nous sommes dans les locaux de la radio Tambara, une des principales radios partenaires du studio Kalangou, Ottawa. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons tout de suite commencer avec vous, monsieur le directeur régional, des sports et de la jeunesse ici à Ottawa. Comment décrivez-vous l'ampleur de l'exode des jeunes vers les pays du Maghreb, notamment la Libye, pour ce qui concerne la région d'Ottawa?
Donc, comme vous l'avez dit, c'est que la région d'Ottawa, en fait, est reconnue par l'ensemble en fait des Nigériens, que c'est une zone en fait d'exode par excellence. Nous savons pertinemment que les jeunes de la région de Tawa se retrouvent presque un peu partout hein, dans les contrées, dans la sous-région, notamment en fait en Libye, au Cameroun, au Gabon, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana, à la Libye, hein, au niveau de la Libye, hein, parce que c'est surtout en fait la majorité effectivement converge vers la Libye, et jusqu'au Sénégal hein, en fait en réalité, nous avons certains de nos jeunes effectivement qui émigrent dans ces zones-là.
Monsieur Boubena Ansi, donc membre de l'association Adelki, quel regard vous portez sur ce phénomène, en tout cas d'exode des jeunes vers les pays du Maghreb, notamment la Libye, en tant qu'acteur de la société civile?
Le regard que nous posons sur cette situation-là, Ottawa, c'est une région quand même dont la jeunesse, je peux dire que la jeunesse souffre quand même un peu et par rapport à cette situation. C'est pour cela que la jeunesse, les jeunes, à chaque fois partent à Libye pour chercher du quoi faire, pour chercher de quoi quand même vraiment subvenir à leurs besoins. Parce que si tu as l'habitude de partir à Libye ou tu as l'habitude de partir au Gabon ou en Côte d'Ivoire, c'est juste pour chercher de quoi faire. C'est juste chercher de quoi quand même tu vas subvenir à ton besoin. Parce que tu ne pars pas pour voir quelqu'un ou tu ne pars pas pour vraiment chercher quelque chose ou pour prendre une activité qui ne te concerne pas. C'est juste pour aller chercher de quoi que tu vas faire.
Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de jeunes qui sont concernés par ces déplacements?
C'est une estimation que je veux faire parce que je n'ai pas de chiffres quand même exacts dans ma tête. Mais je veux faire une estimation parce que chaque année, c'est dans le 25 000 à 30 000 jeunes qui sortent pour aller à Libye ou bien pour aller au Gabon, pour aller au Cameroun, à Cameroun ou bien dans les autres pays. Parce que quand tu regardes, tu sors en dehors de Tawa et de la ville de Tawa, tu vas voir les camions qui prennent les gens pour aller. Parce que par semaine, tu vas voir que c'est 50 à 50, 100. Tu vas voir vraiment, ils sont nombreux quand même, qui sortent chaque semaine, quoi.
Et c'est quelque chose qui continue même aujourd'hui, ou bien vous parlez d'une situation d'il y a quelques années ou quelques mois?
Tu sais, maintenant, la situation au Libye, à Libye plutôt, quand même, c'est une situation très dégradante quand même. C'est une situation quand même vraiment qui touche beaucoup. C'est pour cela que ça a diminué maintenant. Les jeunes quand même sont là en train vraiment de concevoir les choses comme il le faut quand même. Parce qu'ils ont pris conscience. Maintenant, ce n'est même pas la peine de partir quand même. Il faut rester chez toi. Pour, si tu as quelque chose à faire quand même, ça serait mieux que tu restes à la maison que de partir vraiment chercher du quoi.
Nous allons passer la parole à Abdul Rachid Zakou, qui est président régional du Conseil des jeunes, ici même à Tawa. Monsieur Abdul Rachid, comment vous décrivez l'ampleur du phénomène de l'exode des jeunes de Tawa vers des pays comme la Libye, en termes de nombre de jeunes qui s'en vont?
En termes de nombre, parce que moi je ne veux pas m'aventurer, parce que même l'autorité n'a pas de chiffres exacts. Il y a eu des tentatives d'avoir ce chiffre. Il y a un comité qui est en train de travailler comment ils vont maintenant. Mais c'est des pourcentages, peut-être les gens peuvent donner. Nous, on peut dire à plus de 60% de ces jeunes-là sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir. Il n'est pas un secret pour tout le monde ici. La région de Ottawa est une région par excellence par rapport à l'exode. On a deux sortes de catégories d'exode. L'exode rural, donc des jeunes qui viennent
en ville ici,
pour venir en ville, et ceux des grandes villes ou des grandes communes qui vont à l'extérieur. En tout cas, c'est au niveau mondial. Jusqu'aux États-Unis, on a des gens qui immigrent là-bas. Donc, vraiment, par rapport à la situation, en tout cas, ça fait des décennies, parce que je l'ai toujours dit à Tawa, nous, la question d'exode, c'est une tradition, c'est devenu une tradition. Donc, dans chaque famille, en tout cas dans chaque foyer, au moins vous avez trouvé un ou deux ou trois. En tout cas, dans la région de Tawa, vous n'allez pas trouver des foyers où il n'y a pas vraiment quelqu'un
qui est une fois allé en aventure. Une honte, c'est une honte pour des jeunes gens de ne pas y aller, même si c'est une seule fois ou quoi?
Très bonne question. À Tawa, quand on est jeune, à partir de 15 ans, on estime que non, on ne devrait pas rester à la maison, regarder les parents nous nourrir. Donc, c'est une honte. Quelqu'un qui a 15, 16, 17, 18, 20, là, ce n'est pas possible. Donc, qu'il reste vraiment sans rien faire, que les parents le nourrissent. Et aussi, il y a la tentation. C'est quoi la tentation? Des amis qui sont là-bas, t'envoies des photos, de l'argent, des portables, etc., etc. Ils sont en train de réaliser beaucoup de choses. Donc, tu te sens victime. Maintenant, ça te pousse à abandonner tout. J'ai dit abandonner tout pour aller les régions, pour aller aussi faire la même chose. Donc, parce que nous, ici à Tawa, la majorité, j'ai dit, la majorité de jeunes ne s'attendent pas à l'État ou faire des études. Non, tu as un projet, tu penses que tu peux aller aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire ou en Libye pour chercher de l'argent, le faire, tu le fais. Donc vraiment, c'est pourquoi j'ai dit que c'est venu une tradition.
Alors, quel comparatif peut-on faire entre les départs de nos jours et ceux des années antérieures?
Il y a un très grand changement.
C'est lequel?
Et le changement qu'on a observé, c'était quoi? Auparavant, les gens partent pour réellement chercher de l'argent, pour aboutir à un projet. Mais maintenant, non. Tu vas voir quelqu'un, un jeune, qui a son taxi moto ou qui a sa petite boutique, en tout cas une petite entreprise, mais il ferme et il va. Il va, il revient, il va. C'est comme si c'est du tourisme. C'est comme si souvent, les gens disent, bon, nous on va aller se nourrir un peu, se grossir un peu ou se broser un peu pour avoir la peau. Voilà, pour envoyer un jeune, pour intimider les jeunes filles, etc., etc. Donc c'est comme si c'est devenu, les gens ont l'habitude de la vie qui est un peu peut-être moins chère ou luxe de l'autre côté pour aller faire. ils vont revenir avec vraiment d'autres traditions que nous, on ne connaît pas et que, qu'on ne maîtrise pas. Donc, voilà, alors qu'auparavant, non, ce n'était pas ça. En tout cas, il n'y a pas des gens qui viennent avec certaines barbaries qu'on vient maintenant, qu'on voit.
Alors, donc, vous voulez nous dire que de nos jours, ce qu'on constate, c'est que les gens ne vont pas parce qu'ils n'ont rien à faire ici, non pas parce qu'ils ont envie d'aller trouver une fortune, mais plutôt partir pour partir.
En tout cas, il y a un nombre important de jeunes qui le font. Parce qu'à un moment donné, il faut que les parents mobilisent de l'argent ou des frères ou des amis qui sont là-bas pour les embarquer de force. Quelqu'un qui va aller faire 30 ans, quelqu'un qui va aller faire 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, il n'a aucun franc. Il faut qu'on lui fasse cotisation pour le faire revenir. Et ça, vous voyez que lui, là, il n'est pas parti pour chercher de l'argent. Ça veut dire qu'il est parti pour autre chose, entre griffes. C'est ça la réalité.
Et Boubana, ainsi, quels sont les principaux facteurs, à votre avis, de cet exode?
Quand même, je peux dire que vraiment, s'il y a un manque, parce que c'est le manque vraiment de quoi faire, parfois, qui pousse les gens là à partir quand même chercher de quoi faire quand même. Sinon, si la personne a quoi faire dans sa maison ou dans son pays, mais pourquoi aller? Mais c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. S'ils ont quelque chose à faire quand même, ils ne vont pas partir.
Et est-ce que vous êtes d'avis avec le président du conseil régional des jeunes qui pense que aussi il y en a qui vont, hein?
Je suis entièrement
juste parce
d'accord.
Qu'ils veulent aller découvrir.
Oui,
ce qui
je
se passe
suis
là-bas.
Entièrement d'accord avec lui. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Parce qu'il y a des gens qui passent, c'est pas pour chercher de l'argent. C'est pour vraiment faire de quoi que ce soit. Sinon, ce n'est rien que. Imagine quelqu'un qui a sa boutique ou quelqu'un qui a son kabou-kabou là. Vraiment, il parle. Mais quoi chercher? Ici, là, tu gagnes. Tu vas chercher quoi? Vous voyez? Sinon, vraiment, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Vraiment.
Monsieur le directeur régional des sports et de la jeunesse, quel autre facteur peut expliquer ce départ massif de jeunes vers les pays du Maghreb, notamment la Libye?
Ok, bon, et moi je pense bien que de manière générale, hein, si vous voyez en fait les gens en fait quitter, ceux qui sont sûrs, ceux qui n'ont pas en fait un job, ils n'ont pas un travail réellement qui peut leur permettre vraiment de trouver leur comment dirais-je leur quotidien. Si quelqu'un quitte, ce qui suppose effectivement qu'il est en difficulté. Mais maintenant, moi, je pense bien que dans certaines mesures, puisque, comme il l'avait dit, hein, c'est presque devenu une coutume, puisque j'ai vu, en fait, il y a certaines, comment dirais-je, certains jeunes qui quittent l'école. Ils sont à l'école, mais ils quittent, en fait, pour aller, en fait, en exode.
Ils abandonnent l'école.
Ils abandonnent l'école. Hein. Vous voyez quelqu'un, en fait, en classe de 5e, 4e, 3e, en classe de 3e qui abandonne et qui s'en va pour en fait l'exode. Vous voyez, ce qui en fait, c'est pour dire effectivement, comme l'avait dit en fait le président, c'est presque une coutume en fait à nous ici au niveau de.
Chacun
de
doit aller explorer.
Voilà, il faut que. Ce que tant que tu ne, l'individu en fait ne fasse pas en fait ce trajet-là, on le considère en fait comme quelqu'un qui ne peut pas. Bon, je ne sais même pas en fait quel vocable.
Oui,
en fait,
je vois.
C'est quelqu'un qui n'est pas peut-être.
Qui n'est pas mûr.
Bon, qui n'est pas mûr. En gros, voyez, en gros, en fait, c'est comme cela. C'est comme quelqu'un qui n'est pas mûr en fait en réalité. Donc, à partir de cet instant-là, ce que les gens en fait donc se ruent vers en fait les pays, comment dirais-je, vers d'autres pays pour pouvoir vraiment aller peut-être. Mais moi, sauf que. Je me suis dit que les gens, en fait, partent plutôt pour vraiment chercher de l'argent au lieu de. Oui, bon, il n'y a pas de règles sans exception, comme ils l'ont dit, en fait. Mais il y a certains.
En fait, on peut avoir deux catégories. Des gens qui n'ont vraiment rien du tout ici et qui espèrent aller trouver quelque chose.
Voilà.
Et il y en a aussi qui partent en aventure simplement.
Majoritairement, c'est comme cela. Mais ils sont peu, en fait, qui quittent pour juste des aventures. Hein. S'ils quittent, de manière générale, c'est pour aller à la recherche, effectivement, de l'argent.
Donc, à propos de justement les raisons qui font que certains jeunes s'aventurent dans ces pays, nous avons interviewé quelques anciens aventuriers que nous avons rencontrés justement ici à Ottawa au sujet des causes de leur départ. Je vous propose de les écouter.
Kassan, Ankachi, Banzawa, Tehidamoto, Seri de la Rura. La raison de mon départ à Libye est liée à l'inconfort dû au manque de boulot ou d'activité génératrice de revenus. En voyant mes amis d'enfance aller à Libye et revenir avec de l'argent qui leur permettait de s'offrir ce qu'ils voulaient, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller tenter ma chance. Et Dieu merci, aller à Libye m'a permis de me marier, d'acheter et de construire ma propre maison et de mettre sur pied un atelier de couture.
Ni sai gida ni gine gaskiya magana Hausa suke cewa abin da ya kungo kusu ya fada cikin huta to ina ga yayi hutar zahi in ka ga mutum
ya proverb Hausa dise ce que pousse une souris à sauter dans le feu est sûrement plus chaud que le feu lui-même. Donc quand vous voyez que quelqu'un abandonne toute sa famille pour aller en aventure, c'est que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il le fait. Nous sommes dans un pays où il manque du travail, même si tu en as envie. Et étant donné qu'on a des besoins auxquels il faut satisfaire, l'on ne peut se contenter de rester ici sans aller à Libye. Là-bas, on peut trouver du boulot, soit dans les jardins, ou soit pratiquer des activités manuelles ou servir comme gardien.
Akwai gadi gadi haka kamar irin shago zaka iske kana gadin shi irin gida haka da sauransu ayyuka dai suna da dama.
Vous venez donc de suivre ces aventuriers qui nous expliquent un peu les raisons pour lesquelles ils sont partis, ils ont choisi de partir. D'abord à vous monsieur Boubena ainsi, quel commentaire vous inspire à ces propos que vous venez d'entendre ou qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention?
Vraiment, ce qu'ils ont dit quand même, c'est vrai, parce que j'ai écouté, parce que le gars là, il a dit que vraiment, il remercie même la Libye, parce qu'il sait pourquoi il a dit ça. C'est pas pour rien qu'il a dit qu'il remercie la Libye, parce qu'il a trouvé de quoi faire. Maintenant, lorsque il est parti chercher de l'argent, maintenant il a eu de l'argent, maintenant il a son métier dans son propre pays, chez lui-même. Donc vraiment, marié avec des enfants, il a construit même une maison qu'il a construite. Je pense que vraiment, c'est le lieu quand même de remercier même le pays. Et encore, si les gens ont cette idée-là comme lui, vraiment, ça serait bon.
Avec avoir un objectif précis et quand on l'atteint, on s'assume.
Il ne faut pas partir sans objectif. Il faut partir avec un objectif précis. Tu es parti chercher, mais quand tu as y avoir, il faut revenir à la maison et investir à la maison. Faire quelque chose à la maison, vraiment, qui va te retenir à la maison. Je suis d'accord avec lui et je suis fier vraiment d'attendre ce qu'il a fait comme, vraiment, comme projet, comme réalisation quand même. Parce qu'il est parti avec son projet et le revenir quand même, c'est qu'il soit.
Alors, monsieur le directeur régional Aliou Amadou, directeur régional de la jeunesse et des sports, vous avez écouté ces aventuriers. Hein? Qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention sur les raisons évoquées?
Bon, effectivement, comme je l'ai en fait écouté, c'est qu'en réalité, c'est que les jeunes là ne sont pas partis en fait en réalité pour juste en fait une aventure. Ils sont partis effectivement dans l'optique de chercher de l'argent. Et finalement, effectivement, le bon Dieu a fait en fait à ce qu'il ait en fait cet argent là. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, en fait, parmi eux, il est venu, en fait, il a dû construire, il a payé d'abord une parcelle, il a dû la construire, il s'est marié. Et maintenant, présentement, ils sont en train de travailler. Ils ont un truc, un métier qu'ils ont, en fait,
installé ici.
Voilà. Alhamdoulilah, avec cet état de fait, j'espère bien que si tous les jeunes qui quittent et qui reviennent, en fait, avec quelque chose, parviennent en fait à faire autant que moi j'espère que ça c'est un ouf de soulagement pour la jeunesse. Mais malheureusement il y a certains effectivement qui partent, qui reviennent en fait avec la manne mais qui l'utilisent mal et finalement ils sont obligés de repartir encore une fois de plus.
Monsieur le président régional des jeunes de la région de Tawa, quel est votre commentaire sur ces cas qu'on a vu parmi tant d'autres?
En tout cas mon commentaire c'était ça. Et quand vous allez faire un tour dans la ville de Tawa ou dans les villages, vous avez trouvé des gros villas. Ces villas-là, ces voitures-là n'appartiennent pas à des politiciens. D'ailleurs, tous les jolies maisons qui sont dans la région de Tawa n'appartiennent pas aux politiciens. C'est ces gens-là. C'est ces gens-là d'abord qui ont une ambition, qui ont un projet avant de partir. À un moment donné, c'était difficile. Ils ont des millions, ils ont des milliards certains, mais ils les gardent là-bas. Mais après plusieurs sensibilisations, explications, beaucoup d'entre eux ont compris qu'il faut investir à la maison, il faut construire à la maison. Ceux qui ont construit tous ces étages, d'autres vont se revenir s'installer. D'autres sont là-bas, ils continuent à faire du commerce, à faire leur travail. Donc ça c'est une zone ambitieuse. Souvent, c'est vrai, tu as tes initiatives, tu voulais réaliser des choses que dans ton pays, tu ne sais pas comment avoir les moyens pour le faire, d'aller quelque part pour trouver et le faire. Ça, je crois que ça, ce n'est pas un mal d'air, c'est un bien pour le pays. Dans les années 87, on m'a dit, le CFA est fini à Ottawa. Parce que les exodants ont tellement envoyé de l'argent et que leurs parents ont tellement échangé de l'argent que le CFA est terminé. C'était au temps de Sénoukounti, de les années 86, 85, 87, comme ça. On nous a dit ça. Les gens ont confirmé ça. Ils disent qu'il n'y a plus de CFA dans les banques.
Donc finalement, c'est une tradition, cette migration, oui, cet exode. Et aussi, les gens prennent l'exemple de leur aîné, voilà, les gens qui ont pu réaliser. Et souvent, les gens voient, voilà, ils veulent aussi les ressembler.
Dans mon premier intervention, j'ai dit qu'il y a la tentation. Cette tentation, tu as vu quelqu'un a fait du bien. Il a amené ses parents, il a construit, il a fait tout ce qu'il a fait. Surtout, ce que les gens aussi ne savent pas, les femmes jouent un grand rôle dans cette affaire d'exode. Je vous assure.
Les femmes?
Oui. Les femmes font partie de ceux-là qui font en sorte que ce jeune garçon-là sorte.
Vous n'êtes pas en train d'accuser les femmes?
Je ne les accuse pas. Ceux de la région de Tawa, qui sont dans les villages.
En quoi faisant? Expliquez-nous.
Si jamais maintenant tu as une femme ou une copine et que sa copine, que son mari qui est à la Libye ou en Côte d'Ivoire l'envoie chaque mois 15 000, 20 000, 30 000, elle a un salaire par mois alors qu'elle, elle se retrouve avec rien, chaque matin c'est des petites paroles on te lance.
C'est pas des caché. Genre défis.
Oui, voilà, on défie ou en t'amenant de l'eau. On peut te dire que, ou tu demandes la bouillotte, on peut te dire qu'elle est en Côte d'Ivoire ou elle est en Libye. Donc, tu vois, une façon d'expliquer, voilà.
Et un beau jour fatigué, tu te décides à partir.
Tu décides à partir. Beaucoup de gens ne savent pas certaines choses aussi. Qui
Et poussent, ça, c'est quelque chose d'antan ou qui actuellement
d'antan, C'est d'antan.
Alors, nous allons continuer dans la deuxième partie de cette émission qui concerne les conséquences liées justement à ces départs. Et je vais vous proposer donc d'écouter les témoignages de deux jeunes, ceux d'ailleurs qu'on avait écoutés, ces deux aventuriers que nous avons rencontrés ici à Ottawa, qui nous racontent les difficultés vécues dans leur aventure. Il s'agit de Aibo Saleh et de Ibrahim Ada. Le premier n'est plus retourné en Libye il y a 5 ans de cela, et le second depuis seulement 1 an.
Anasamu Masololi de Dama, qui est de Bakazatu.
Les difficultés sont inimaginables. Certes, au temps de Kadhafi, il n'y a point de difficultés et l'on peut mieux s'en sortir. Mais aujourd'hui, où il y a du cafouillage, c'est très compliqué. L'une des difficultés, c'est que déjà en cours de route, vous tombez sur des bandits armés qui vous prennent en otage et réclament jusqu'à 5 millions par personne et oblige vos pauvres parents à se débrouiller pour payer des rançons. À Libye, c'est à partir de Sabha, Homs ou Misrata et consorts que l'on tombe sur ce genre de bandits qui vous emprisonnent et vous torturent jusqu'à paiement de rançons. Moi, je n'ai pas été victime, mais récemment, on a fait libérer un cousin en payant 900 000 francs CFA.
Pour ma part, il m'est arrivé de faire un mois de voyage pour arriver à Libye, un mois de souffrance, perdu dans le désert et 2 jours sans eau à boire avant d'être secouru par des passants. Les difficultés une fois en territoire libyen sont entre autres les prises d'otages par des bandits armés qui demandent de l'argent pour vous libérer. Je me rappelle un jour, nous sommes tombés dans une de leurs embuscades et mes camarades ont été tous pris, mais moi, par chance, j'ai réussi à m'échapper.
Vous venez d'écouter donc ces jeunes aventuriers qui nous racontent un peu les difficultés, les défis qu'ils ont dû surmonter dans leur aventure. On a vu quand même que c'est vrai que beaucoup partent pour des objectifs précis qui, pour d'autres, ça aboutissent, pour d'autres, ça n'aboutit pas. Voilà, monsieur le directeur régional de
de la jeunesse et des sports, c'est un peu compliqué. Il y a aussi le conseil régional des jeunes. Voilà. Quelle comparaison on peut faire en termes d'avantages et d'inconvénients liés à cette migration, à cet exode des jeunes?
Bon, en fait, la comparaison ici, je ne sais pas, puisque eux-mêmes, ils l'ont dit, en fait. La comparaison entre les temps anciens et aujourd'hui, en fait, il y a une nette différence. Parce qu'ils ont dit qu'au temps de Kadhafi, presque tout celui qui partait en fait en exode, en fait, revenait en fait avec satisfaction. Mais aujourd'hui, en fait, la difficulté est que maintenant, même le déplacement pour aller en fait en Libye, c'est toute une difficulté. C'est à peine que l'individu parvient en fait à se rendre en Libye sans pour autant être pris par des coupeurs de route.
Et des gens qui les obligent souvent aussi à payer des rançons, à les faire payer.
Ce qui suppose effectivement qu'il y a une nette différence entre les temps anciens et aujourd'hui. Parce que maintenant, moi je pense bien que les jeunes, dans le temps, ils partaient vraiment en réalité à la recherche. Mais aujourd'hui, il est bien vrai qu'ils partent à la recherche, mais en fait à travers les difficultés auxquelles en fait ils se confrontent. De manière générale, moi, je pense bien que la solution, c'est de vraiment de rester à la maison. C'est qu'en réalité, il y a une difficulté, il y a des difficultés énormes à travers, en fait, d'abord le voyage et même, en fait, la recherche de l'argent qu'ils sont en train de faire là-bas.
Est-ce que vous craignez ou est-ce qu'il est à redouter, par exemple, qu'il y ait aussi des impacts négatifs de ces choses-là qu'ils subissent un peu, que cela puisse avoir des impacts négatifs sur leur comportement?
En fait, c'est tout à fait normal, parce que le comportement ce ne sont même pas des autorités libyennes, mais ce sont peut-être
souvent des bandits armés,
armés, en fait, des vanipés, si je peux m'expliquer ainsi, qui sont en train en fait de mettre la jeunesse qui se déplace en fait dans des difficultés. Et là, moi, je pense bien que ce qu'il y a lieu de faire dans ces cas de figure-là, je préfère en fait à ce qu'il reste au lieu de continuer en fait dans des difficultés. Presque tout celui qui se déplace
rapporte
des difficultés.
C'est genre
tout celui qui se déplace rapporte en fait les difficultés.
Et il y en a qui ne s'en sortent pas.
Il y a beaucoup qui l'ont tué. Mais moi, j'ai vu en fait une vidéo à travers laquelle en fait ils étaient plus d'une cinquantaine de personnes assises en fait avec
attachées,
les mains nouées par derrière, et que l'on cherchait en fait à ceux qu'ils payent de l'argent pour pouvoir en fait être libérés. Et là, c'est très grave. C'est très grave. On ne peut pas continuer en fait avec cet état de fait là.
Monsieur Boubenansi, en tant qu'acteur de la société civile, et vous avez écouté les interventions, ces témoignages par rapport aux difficultés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait plus mal?
Merci. Ce qui me fait mal aujourd'hui, parce que même le fait d'aller vraiment, c'est pénible, très pénible. Parce que ce qui est pénible, maintenant tu vas faire un mois sur la route. Un mois ou plus d'un mois sur la route. Toi qui es parti en exode pour chercher quelque chose. Peut-être que tu as laissé une situation à la maison. Mais tu pars. Tu vas faire un mois sur la route. La situation-là que tu as laissé à la maison, vraiment tu ne sais pas est-ce que c'est réglé ou bien est-ce que vraiment c'est pas réglé, tu ne sais pas. Et le mal maintenant, vraiment, c'est la Libye est devenue comme vraiment un pays quand même, je ne sais même pas comment je vais le qualifier quand même, parce qu'un pays qui n'a même pas de gouvernement, tu sais que quand tu pars tu dois être vraiment agressé. Il y a des bandits, parce que maintenant, ce ne sont que des bandits qui sont en Libye. Tu cherches, maintenant, ils vont t'arracher tout ce que tu as eu. C'est vraiment pénible, franchement.
Monsieur le président du Conseil régional des jeunes, Abdelrachid Zakou, quel commentaire sur les risques qu'encourent ces jeunes qui partent en voiture, surtout dans ces dernières années?
En tout cas, dans ces dernières années, il y a un risque énorme. Le premier risque, d'abord, c'est le voyage en tant que tel. Parce que l'État a fermé toutes les anciennes routes accessibles, faciles, que les gens connaissent. Maintenant, c'est des détours, des grands détours.
Pour échapper au contrôle des postes.
De postes. de la police, de la patrouille, etc., etc. Maintenant, en cherchant à contrôler les autorités, vous avez aussi un autre risque de tomber sur les djihadistes ou des bandits. Et là, c'est confus parce qu'on prend votre argent, souvent votre vie.
Et l'autre risque qui est souvent soulevé, c'est le fait de se perdre dans le Grand Sahara.
Oui, ça, dans le Sahara, ça c'est ce qui est récurrent. Parce que le Sahara, il y a souvent des gens qu'on dit qu'ils le maîtrisent, mais souvent non. Parce que entre le Niger et après Durku, vous avez une route qui fait 400 km de sable. 400 km de Sahara. Donc vous voyez.
Où il n'y a aucun repère.
Il n'y a aucun repère.
Physique.
Physique. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas. Le seul puits, c'est, à partir de puits, c'est fini. Donc souvent, les gens perdent et vous mourrez. Donc vraiment, il y a tellement de risques. Maintenant, arriver aussi à la Libye, à la descente des véhicules, en tout cas, tu as 80% d'être séquestré.
Alors aujourd'hui, vu toute cette situation, qu'est-ce qui est proposé à votre niveau, justement, quelle est la contribution de votre organisation, le Conseil des jeunes, votre contribution que vous apportez pour aider à la résolution de ces situations, à permettre à ces jeunes de peut-être trouver, de rester, d'être fixés?
En tout cas, notre première contribution, c'est quoi? C'est la conscientisation, la sensibilisation, la moralisation de ces jeunes-là sur le danger d'aller. La troisième des choses qu'on fait, c'était quoi? C'est la formation professionnelle. On a des partenaires qui sont là et l'État qui nous aide dans ce sens. Ceux-là qui acceptent d'apprendre un métier, on a des centres qui sont partout. Souvent, il y a d'autres qui sont payants, il y a d'autres qui sont gratuits. Plus cette gratuité, on te donne quelque chose par mois qui te permet de faire kabou-kabou ou de prendre
des moyens de transport.
Vous voyez? Donc, nous pensons que quand tu te formes, en tout cas, même si le temps ne te recrute pas, en tout cas, quelque part, toi-même, tu peux créer ta petite entreprise.
Et ça, c'est dans quel domaine? Quels sont les domaines qui sont souvent...
Nous, on a eu à former dans beaucoup de domaines. La maçonnerie, soudure, plomberie, l'informatique, la réparation de cellulaires, etc.
Est-ce que c'est des activités dont les jeunes s'intéressent?
Oui, parce que c'est à leur demande. Toutes les formations, en tout cas, qu'on fait avec les partenaires, c'est à la demande. Vous venez, vous constituez un groupe et vous demandez laquelle des formations vous voulez. On ne vous impose pas, on ne vous propose même pas une formation. Parce que souvent, c'est ça aussi. Les gens sont intelligents. Si vous venez avec vos... Nous, on va faire alors que non. Alors que eux, peut-être ils veulent être maçons. Comme c'est soudure qui est là.
Donc, c'est selon les besoins que les formations sont données.
En tout cas, c'est selon les besoins que les formations sont faites.
À des gens qui ont déjà une base éducative ou même ceux qui n'ont pas?
Non. La majorité, c'est ceux-là qui n'ont jamais cette base, en tout cas éducative, parce qu'ils sont les plus nombreux dans la région de Dar.
Quand on est formé, on a besoin aussi de fonds de départ et souvent ça manque. Cet aspect est laissé à qui?
C'est là aussi qu'on a un souci. Parce que souvent, c'est pourquoi on appelle là les parents. Parce que moi, je ne voudrais pas à chaque fois l'État, les partenaires. Non. On a formé ton enfant. Il a eu peut-être même jusqu'au kit. L'accompagnement pour démarrer, les parents doivent faire quelque chose aussi. Parce que l'entreprise, même si elle est individuelle pour lui, mais elle est familiale. C'est tout le monde qui s'agère. Maintenant aussi, nos parents qui ont de l'argent, qui ont un moyen, peuvent aussi initier pourquoi pas des zakat à ces jeunes pour leur donner et vraiment pour démarrer. Mais souvent, qu'est-ce qu'on voit? On laisse ces jeunes-là avec leur diplôme heureux et aussi eux, ils doivent faire un effort. C'est quoi l'effort? Tiens, ta formation. Vas-y commencer à dessus de quelqu'un.
Genre être stagiaire, suivre quelqu'un.
Ou son apprenti, etc. Maintenant, le peu que tu gagnes te permettra aussi de démarrer pour toi. Parce qu'il faut ça. Si tu attends le temps, non, ça ne va pas venir.
Bien. Monsieur le directeur régional de la jeunesse et des sports, du côté de la direction régionale, qu'est-ce qui est proposé aux jeunes?
Bon, c'est qu'en réalité, ce que nous faisons de manière générale, c'est le volet de l'État. Nous, en fait, en réalité, C'est que dans ce sens-là, nous avons, comment dirais-je, d'abord des sensibilisations à l'endroit des jeunes. Nous avons des formations, comme l'avait dit en fait le président des jeunes. C'est que nous avons des formations que nous faisons en fait à l'endroit de la jeunesse. Nous, pour cela, nous avons d'ailleurs en fait un certain nombre de structures qui sont créées par l'État.
Lesquelles?
Notamment en fait la formation professionnelle, puisque avec la formation professionnelle, nous avons une multitude, si je peux m'exprimer ainsi, une multitude d'écoles, de formations professionnelles qui sont créées en fait dans la région. En dehors même de cela, nous avons en fait ce que l'on appelle les CPJ, les centres de promotion des jeunes, comment dirais-je, sous la tutelle en fait sous la tutelle en fait du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous avons également les EFAC. Les EFAC, c'est que ce sont des écoles de formation artistique et culturelle. Nous avons tous ces centres-là convergent en fait à la formation des jeunes en vue vraiment de leur permettre de trouver effectivement un travail à la fin en fait de la formation. Et tout ça là en fait, ce sont des éléments qui permettent en fait alors à la jeunesse en fait de se retrouver. Il est bien vrai en fait que l'État ne peut pas servir tout le monde. Hein. Il est bien, ça, je suis entièrement d'accord.
Et on voit qu'après les formations, si les jeunes n'ont pas de fonds de départ.
Mais le fonds de départ, en fait, comme l'avait dit en fait mon prédécesseur là.
L'implication des parents.
L'implication. Les parents doivent faire quelque chose. L'État a déjà fait. Le fait même de former, c'est déjà un atout pour les jeunes. Mais maintenant, et dans certaines mesures, d'ailleurs, en fait, il y a des kits effectivement que l'État donne en fait à ces jeunes formés là. Oui, et les parents doivent accompagner davantage pour permettre vraiment aux jeunes de s'installer correctement.
Monsieur Boubena, ainsi en tant qu'acteur de la société civile, en quoi consiste votre rôle dans ce mouvement, dans cette lutte?
Notre rôle, c'est de sensibiliser la jeunesse. Vraiment en sensibilisant la jeunesse. Parce que c'est comme dit le président du conseil de la jeunesse, on ne peut pas empêcher. Vraiment, mais sinon, tout ce que nous sensibilisons, quand tu vas partir là, il faut partir avec un objectif bien défini. Parce qu'il ne faut pas partir quand même sans un projet quand même qui va te permettre. Quand tu pars, il faut partir avec un objectif bien défini. Tu sais, il faut savoir ce que tu es parti faire. Parce qu'il ne faut pas partir dans le vide. Il ne faut pas partir vraiment amener d'autres coutumes pour nous amener ça ici. Non, quand tu pars... Tu es parti pour chercher de l'argent. Quand tu reviens, quand même, tu sais ce que tu vas faire. Et quand tu reviens, ce n'est pas pour retourner. C'est juste pour avoir quoi faire que tu es parti. Ça, c'est notre rôle de les sensibiliser quand même. Il faut savoir ce que tu es parti faire.
Alors, pour finir, cette question à tout le monde. Sur quoi faut-il mettre aujourd'hui l'accent pour réussir à fixer la jeunesse, les bras valides de la région et leur éviter des souffrances inutiles? Voilà. Continuez, M. Boubenansi, avant qu'on passe aux autres.
Et maintenant, les bras valides, quand même, vraiment, la jeunesse, vraiment, nous, tout ce
sur quoi mettre l'accent, en fait, aujourd'hui? Sur quoi on doit miser pour les voir?
Il faut les aider. Il faut aider la jeunesse. La jeunesse, là, vraiment, elle a besoin d'aide. Elle a besoin qu'on les aide quand même. Sur leur formation, même professionnelle, elle a besoin qu'on les aide quand même.
Monsieur le directeur régional, sur quoi mettre l'accent pour réussir à fixer les jeunes?
Bon, moi je pense bien que pour fixer les jeunes, ce que nous avions dit tout à l'heure, c'est les formations. On les forme, une fois formés, en fait, ils doivent être accompagnés d'un kit. Et une fois que le kit, en fait, est reçu, j'espère bien que la solution, c'est de s'installer. Et une fois installé, là, ce qui est sûr et certain, ils vont trouver en fait leur de quoi effectivement parvenir en fait à leur subsistance. C'est qu'en réalité, l'État et les partenaires sont en train de faire le maximum. Et maintenant, quitte en fait à nous autres de continuer la sensibilisation afin vraiment de permettre en fait à ces jeunes là qui ont le peu là de s'installer.
Alors, voilà, M. Abdelrachid Dezakou, conseil régional des jeunes.
Oui, moi, je pense que c'est trois choses qu'on doit faire, qu'on doit mettre l'accent. C'est trois choses-là. D'abord, c'est la sensibilisation. Si tu es conscient du danger que tu encours, peut-être tu vas rester. La deuxième des choses, c'est la formation. Parce que la majorité de ces jeunes-là n'a pas la formation. Si tu n'as pas un métier, si tu ne sais pas quoi faire, en tout cas, tu ne sauras pas quoi faire aussi dans la vie. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas te retrouver. Tu penses qu'il faut aller quelque part. La dernière des choses, c'est quoi? C'est que maintenant, les autorités, l'État et les bailleurs doivent créer un fonds de garantie. Un fonds de garantie, pourquoi? Parce qu'un jeune qui vient d'avoir sa formation, qui veut faire une entreprise, les banques, on sait tout le monde, ils vont demander une garantie de 10 millions, 5 millions, etc. Ou ils vont vendre ta mère, ou ta, je ne sais pas, difficile leur façon de faire là. Donc vraiment, donc nous pensons que s'il y a un fonds de garantie qui sont mis dans ces banques, ceux-là, ces gens-là qui vont oser à créer des entreprises, à faire et de créer même de soit leur petite entreprise, on pense que aussi ça peut aller. Comme ça, eux aussi, à leur tour, ils vont recruter d'autres jeunes. Nous pensons en faisant ça là, on va réduire où ça va aller.
Merci, et c'est ici que nous arrivons au terme du forum d'aujourd'hui sur l'exode des jeunes de Ottawa vers la Libye, causes et conséquences. Nous avons vu ensemble, en tout cas, d'abord les causes qui sont souvent, en tout cas, cette envie d'aller chercher de quoi venir subvenir à ses besoins et tous les risques qui sont liés durant tout le parcours, les difficultés vécues et souvent des souffrances inutiles. D'aucuns y laissent même la vie. Pour mettre fin à tout ceci, il s'agit en tout cas de mettre l'accent sur la formation, sur la sensibilisation, que tout le monde prenne conscience, que les jeunes prennent conscience. Donner à ces jeunes des formations de base qui leur permettent de pouvoir mettre en place des entreprises, les aider justement à mettre en place ces entreprises et le suivi régulier des partenaires, des parents pour que cela puisse réussir. Voilà, et qu'ils puissent contribuer au développement de leur pays sans avoir besoin d'aller périr quelque part. Merci, nous étions en compagnie de Boubé Nahansi, membre de l'association Adelti, M. Abdelrachid Zakou, président régional du Conseil des jeunes, et Aliou Amadou, directeur régional de la jeunesse et des sports. Je suis Alassane Kouzim Amadou pour la présentation de cette émission. Bonsoir. Thank you.